Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. Et puis voilà, on a appris la nouvelle pour Bonnie Tyler. Donc effectivement, je crois qu'on va écouter quelques morceaux d'elle en sa mémoire. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui mène avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Régine Daguinos. Si nous allons parler du camp de Buglose. On est sur Souvenir FM. Eh bien, on va faire du souvenir et de se rappeler des choses qui ont été perdues un petit peu dans l'histoire. Mais heureusement que votre association s'est chargée de le remettre à jour, qu'on puisse le faire redécouvrir ceux qui l'ont oublié. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on va passer une petite heure ensemble et on va découvrir votre association et puis ce site particulier qui fait partie de notre patrimoine et c'est à notre porte, juste à côté. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Voilà, c'est parti. Donc nous avons Régine Daguinos qui est là et on va commencer par le... On commence en général par demander un petit peu aux gens une trajectoire personnelle, une petite partie de leur bio, de leur vie qui fait qu'ils se trouvent aujourd'hui à ce micro. Si vous voulez bien vous prêter à cet exercice.
Eh bien, je suis née à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis partie en région parisienne pour faire une carrière. Mmh. Et je suis revenue dans les Landes à la suite les problèmes de la vie.
Oui, bien sûr.
Voilà, je suis allée d'abord dans le Lot-et-Garonne et ensuite je suis revenue dans mon pays natal.
Oui.
Et dans ma maison natale.
Ah, ben
également.
Oui. Ah, ben voilà. D'accord. Hein.
Donc. En effet, il était pour moi essentiel de lorsque, après la tempête Klaus, nous avons retrouvé les vestiges du camp de prisonniers de Buglose. Il était essentiel que l'on en fasse quelque chose.
Oui, tout à fait, oui. Alors parlons-en de ça justement, cette tempête Klaus, c'était en quelle année ça, cette tempête ?
La tempête Klaus, c'était en 2009, oui. En janvier 2009.
Oui.
Et donc, à la suite de ça, eh bien, d'abord, ce qu'il faut que je dise, c'est que la forêt avait repoussé. C'est un camp de la Seconde Guerre mondiale,
voilà.
De 1940 à 1944, avec des prisonniers coloniaux. Mmh. Et ensuite, de 1945 à 1948, des prisonniers allemands.
Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire, c'est l'ironie du sort parce que la tempête s'appelait Klaus.
Mais
je pense qu'on a déjà dû vous la faire, celle-là.
Non, mais justement, ça nous avait interpellés. Oui, puisque lorsqu'on a retrouvé cette parcelle, puisque c'est une parcelle dans le massif forestier de la commune, puisque le massif forestier de la commune est de 1400 hectares. Je ne parle que des pins, pas des chênes, qui sont de l'autre côté de la Dour. Et de 1400 hectares, et là, il y a eu... En 2009, 400 hectares ravagés par cette tempête.
Oui.
Voilà. Et donc, lorsqu'on a retrouvé cette parcelle, c'est comme la même topographie que quand les Allemands sont partis. Donc, en effet, cette tempête Klaus, moi je dis toujours, elle aurait pu s'appeler Lionel ou Joseph, mais elle s'appelait Klaus. Donc, en effet, ça nous a fait un peu réfléchir savoir ce qu'on allait faire de ça.
Alors, donc, il y a une association qui a pris en main la gestion de ce lieu pour lui redonner un peu mémoire. Alors, justement, cette mémoire, quand vous dites on a redécouvert, etc., est-ce que ça veut dire, par exemple, les gens qui étaient là, est-ce que vraiment techniquement, ils avaient une totale ignorance de l'existence de l'ancien camp à cet endroit-là ?
Non. Les locaux, enfin les anciens connaissaient ce camp de prisonniers, l'avaient vu, pour certains qui sont partis aujourd'hui, bien sûr la plupart. Et donc, en tout cas, ils avaient le souvenir de ce cimetière qui était fleuri.
Oui.
Et voilà, ils avaient une dizaine d'années à l'époque.
Oui, bien sûr. Alors, donc, vous êtes plusieurs personnes se sont mis ensemble, vous avez créé une association. Donc, elle a été créée quand, cette association ?
Alors, nous étions plusieurs personnes, les uns qui aiment l'histoire, les autres qui étaient touchés par cette histoire, et ceux qui habitent Saint-Vincent-de-Paul ont voulu créer une association. À l'époque, moi, j'étais élue.
Oui.
Et donc, peut-être que ça a été un peu plus facilité, je ne sais pas. Le conseil municipal avait été sollicité à cette époque-là pour demander ce qu'on faisait de de cette parcelle qui avait été ravagée par la tempête.
Et, oui.
Et donc le conseil municipal avait décidé qu'on en ferait un site de mémoire.
D'accord.
Voilà.
Bon, c'est C'était une bonne décision dans le sens où, ben voilà, c'était comme c'était un peu oublié, recouvert ben, par la végétation, c'est revenu à ciel ouvert. L'intérêt, c'est de redonner sa valeur patrimoniale et du souvenir.
En effet, c'était un geste fort de la commune parce que sortir 12 hectares de la forêt, enfin, c'est aussi un budget d'investissement qui n'est plus là.
D'accord, oui.
Voilà, donc c'était un geste assez fort et nous avons constitué notre association en juillet 2012.
D'accord. Alors justement, là, cette parcelle-là faisait partie du domaine ?
Oui, elle faisait partie. D'accord, oui. Alors c'était un domaine, le massif forestier de Saint-Vincent-de-Paul est géré par l'Office national des forêts.
Qu'on a reçu ici il n'y a pas très longtemps, on en a parlé des parcelles publiques.
Oui, et donc cette parcelle, si vous voulez, a été enlevée de la gestion de l'ONF. Et
oui, bien sûr, oui. C'est ça, c'est vrai, on a discuté avec le représentant de l'ONF, et voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que les partis publics sont très faibles par rapport aux partis privés, hein, il doit y avoir 98% de terrain privé par rapport à quelques petits pourcentages qui est géré par l'ONF, effectivement, ils font le même travail en fait, l'ONF, en quelque sorte, que les civiculteurs, mais dans le domaine public, voilà, c'était une émission assez intéressante pour ça. Oui, et donc, alors qu'est-ce qui est apparu, cet endroit-là ? Juste des restes de fondations ? Qu'est-ce qui était visible à ce moment-là ?
Les fondations, les vestiges qui restaient des baraques qui étaient construites à cet endroit.
Tout avait été rasé ?
Rasé, la plupart des gens, des locaux sont venus se resservir, puisque les Allemands, quand ils sont arrivés, ils ont demandé que les locaux amènent tout ce qu'ils avaient, le barbelé, des planches, des...
Oui. Voilà. Ça fait penser un petit peu au fonctionnement des fois qu'il y avait au Moyen-Âge, les gens qui arrivaient, l'envahisseur, c'est un peu ça.
Voilà, l'envahisseur a demandé.
Oui, et donc
en fait, il valait mieux le faire.
Oui, sinon je crois que la punition était souvent la mort, en fait, sans autre forme de procès.
Bon.
Et donc c'est un lieu particulier, donc il a quelque chose de spécial, c'est que c'est pas un camp comme tous les autres, c'est aussi il y avait les gens qui étaient là, ils étaient une population bien spécifique par contre.
Oui, c'était une population de coloniaux de toutes les colonies françaises et qui ont été vous le savez que c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne puisque Hitler avait envahi la Pologne et donc comme la France et l'Angleterre étaient pays amis, la France a déclaré à l'Allemagne, elle a été déclarée en septembre 1939, s'est arrêtée en 1940, ça a été très peu, mais tous ces prisonniers français sont partis dans des stalags en Allemagne et ces coloniaux aussi qui étaient déjà installés depuis certains assez longtemps dans les casernes.
Oui, alors pendant la Première Guerre mondiale aussi déjà il y avait des tirailleurs sénégalais, etc. Il y avait déjà une tradition d'importation, on va dire, de coloniaux pour les utiliser pendant la guerre. Voilà. Enfin, j'utilise des termes un peu pas très chaleureux, mais bon, ça a été
c'était ça quand même.
Hein.
Oui, c'était ça.
Donc du coup, il y avait... c'était des compagnies spéciales où il n'y avait que des coloniaux ensemble, non, je pense ? Ou ils étaient mélangés avec les autres ?
Tous les coloniaux étaient mélangés.
Oui, c'était mélangé, oui.
D'accord. Il y avait beaucoup de Marocains. On a des listes que les Allemands faisaient, parce que l'appel était fait tous les jours, pas pour le plaisir des prisonniers. Il y avait 1000 ou 1200 prisonniers, ça pouvait durer des heures au soleil ou dans le froid. Vous avez déjà vu ça dans les films.
Oui.
Après, ça s'est passé à Saint-Vincent-de-Paul.
Voilà, c'est ça, juste à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'on peut faire confiance aux Allemands sur la rigueur de l'organisation, malheureusement, de certaines choses, y compris la guerre. C'est vrai, on les prend toujours en exemple pour certaines choses. Oui. Mais pour la guerre aussi, ils ont été très, très mécaniques. Ils ont fait une vision industrielle de certaines choses qui glacent un peu le sang quand on y pense. Mais c'est vrai que c'était un peu leur marque de fabrique, je veux dire, malheureusement.
Vous parlez des nazis, je suppose.
Oui, des nazis, bien sûr.
Mais bon, Hitler avait programmé ça. Enfin, c'était des gens qui étaient faits pour tuer.
Oui, bien sûr. Ouais. Et oui, alors donc du coup...
Mais nous, on ne mélange pas tout. Oui. On rappelle aussi qu'il y avait des Allemands qui n'étaient pas des nazis.
Ah, bien sûr, oui.
Mais qui devaient quand même faire les choses parce que les familles étaient menacées au pays.
Oui. Bien sûr, il y a eu des malgré nous, il y en a eu dans tous les camps.
Et
malgré nous, c'est vrai que même on a eu ça, nous, avec des gens de La Réunion, je crois, etc. Des fois, des gens qui se retrouvent obligés de faire des choses. C'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Et voilà, donc ce camp, il a été repris en main donc en 2012, et vous êtes dit, qu'est-ce que vous êtes dit, est-ce que déjà les premières questions, c'est, je parle la logistique, déblayer, déjà commencer à déblayer le terrain.
Oui, au début, nous étions assez nombreux, hein, ça c'est vers dans au moment de la période du comment s'appelle ce virus là.
La Covid.
Covid. Bon, on a perdu beaucoup de monde. Hein. C'est parce que c'est un travail qui est dur. On pioche, pas seulement les archives, mais on a pioché, travaillé, déblayé des montagnes de bois. Nous avons eu beaucoup d'aide hein, par des maires de communes extérieures qui nous ont prêté
leur matériel ou leur personnel
non, le matériel, remplir des remorques de bois. Il y en a eu des mètres cubes et des mètres cubes. Ah ça, ça a été notre premier travail.
D'accord,
et ensuite, retrouver en effet les fondations, les piqueter, mettre des piquets à chaque bout pour au moins les baliser.
Oui.
Voilà. Parce que, en fait, c'était un camp de prisonniers coloniaux. Je ne sais pas si je me rappelle plus si je l'ai dit, de 1940 à 1944. Et en fait, ces prisonniers coloniaux, j'ai évoqué le fait que quand ils ont été tous ces prisonniers, ces Français, les Blancs, les Noirs, voilà, ils sont partis en Allemagne.
Oui.
Mais en Allemagne, les coloniaux ne pouvaient pas rester.
Ben non.
Parce que, ils pouvaient souiller cette race aryenne dont voulait.
Absolument Hitler. Oui.
Voilà, Hitler, le nazi.
Oui.
Il n'avait pas pensé du tout à ça. Et puis les prisonniers coloniaux avaient aussi peur, enfin ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient tout le temps ce froid.
C'est un choc. Hein.
Donc il a été question de construire un front stalag à l'endroit du Pôle Obéris à Bayonne.
D'accord.
Le Pôle Obéris, c'était un endroit de villégiature pour les Anglais. Et ils en ont fait un front stalag.
Oui.
Voilà, où ont été internés tous les prisonniers coloniaux. Et ensuite, ces prisonniers coloniaux ont été dispatchés dans la quarantaine de camps qu'il y avait dans les Landes, parce que Buglose, c'est le seul et unique qui reste aujourd'hui. Et même en France, il est unique dans son histoire.
Oui.
Et ils étaient accueillis à Buglose. Les premiers, quand ils sont arrivés, ont été accueillis dans un camp de réfugiés à Saint-Vincent-de-Paul, un camp de réfugiés espagnol.
Oui.
Au moment de la retirada, les Espagnols sont venus et les enfants et les femmes ont vécu dans ce camp. Et ce camp était trop petit pour accueillir les prisonniers coloniaux. Et les nazis avaient trouvé un camp qui avait été déjà réquisitionné par les Français, qui aurait fait beaucoup de prisonniers allemands. Ça ne s'est pas passé comme le souhaitait l'armée française.
Non.
Donc les Allemands ont pris ce site dans la forêt, qui était déjà réquisitionné, comme je le disais, et en ont fait un énorme camp. Ouais.
Alors, on va déjà faire une première petite pause. On va écouter une musique que les auditeurs doivent connaître. Un petit rappel sur la tolérance et le partage. À tout de suite. Et voilà, c'était un classique, Ebony and Ivory, hein, Paul McCartney et Stevie Wonder. J'ai pas besoin de développer plus que ça pour la signification, mais les touches d'un clavier, il y a des touches blanches, des touches noires, elles font de la musique ensemble. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc on continue à parler de... c'est intéressant, vraiment, l'histoire de ce camp, de tout ça, hein, d'avoir une idée de ce qui s'est passé. Vous disiez effectivement que les prisonniers coloniaux envoyés en Allemagne, ils sont à un moment donné, ils se disent « Oula, on ne va pas contaminer notre belle race aryenne, on ne sait jamais ». Ils ont préféré les reléguer ici, donc ils ont envoyé à Bayonne, et puis après, ils ont fini par arriver ici. Donc il y avait déjà une petite infrastructure qui avait été construite par l'armée optimiste, comme je disais tout à l'heure, parce que ça ne s'est pas passé comme ils espéraient. Mais alors du coup, ça représentait combien de surface? Vous avez parlé d'une douzaine d'hectares, vous avez parlé à peu près?
Oui, c'est une douzaine d'hectares. Ça s'étale sur une douzaine d'hectares. Ça représente deux parties, avec une partie pour le corps de garde de l'armée allemande et un corps de garde, la partie des prisonniers. Oui, ça représente 12 hectares. D'ailleurs, la visite, elle dure assez longtemps,
oui.
2 heures. Bon, pas conseillé en ce moment, puisque les vigilances ne permettent pas les visites l'après-midi.
Oui.
Mais bon, ce que je voulais quand même dire, hein, j'ai parlé de l'ONF tout à l'heure.
Oui.
C'est, au moment de la guerre, ça ne s'appelait pas l'ONF, hein, ça s'appelait les eaux et forêts.
Oui, ah oui, les eaux et forêts.
Voilà, ça, donc oui. 80 ans après, les choses ont quand même... changer.
Ben on espère. C'est un petit peu évolué quand même. Non, mais c'est vrai que c'était déjà important dans les Landes, la gestion de la forêt. C'était
oui,
déjà quelque chose, de fondamental. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi de le noter. Alors, donc, il y a eu des...
La forêt landaise est une des plus grandes forêts d'Europe.
Ah oui.
Enfin, pour l'instant.
C'est la deuxième plus grande forêt d'Europe artificielle.
Oui.
Voilà. Après, on a nos amis allemands encore, la forêt noire, je crois que c'est un grand... voilà, mais c'est vrai que nous, on a un grand massif. Et d'ailleurs, on s'inquiète un petit peu en ce moment. Hein, on y pense un petit peu au danger que... Voilà, il faut faire attention à la forêt. Hein, faites pas les idiots. Vous savez quelles sont les recommandations. Mmh. Vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Hein, voilà. On y tient, notre forêt, on en a besoin. Il y a eu des périodes, des étapes. Il y a eu une arrivée là, de 1300 prisonniers à Buglos. C'est quelque chose d'énorme. Alors, il y a une voie ferrée qui n'est pas très loin. À l'époque, elle existait déjà.
Oui.
Parce qu'on a souvent parlé de transport par les trains, hein, des prisonniers. C'était un outil logistique très puissant, effectivement.
D'ailleurs, les camps ont été construits le long de la voie ferrée.
Voilà.
Alors, pour celui de Buglos, la gare était à Basta, là où il y avait l'ancien camp de réfugiés espagnol. Mm-hmm. Mais les gars, les prisonniers faisaient la marche à pied. Hein,
oui.
De Basta jusqu'au camp de Buglos, il y a 6 km.
Oui,
voilà, évidemment. Donc, quelquefois, ils étaient exténués, mm-hmm. en tout cas pour certains.
Mm-hmm.
Parce qu'ils faisaient... Les travaux qui étaient destinés aux... C'était des prisonniers qui travaillaient pour la machine de guerre allemande.
Oui, bien sûr. Oui.
Ils restaient pas là au camp. Il fallait qu'ils aillent travailler.
Mais c'était pas les vacances,
de gré ou de force.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, ils avaient des travaux. C'était soit le mur de l'Atlantique.
Mm-hmm.
C'était l'abattage des pins pour faire du bois de mine qui était envoyé dans toutes les mines de charbon, de fer, etc.
Oui, oui.
Que ce soit en France ou en Allemagne. Hein, Et ensuite, c'était la construction de la base aérienne 118 qui, à l'époque, était un centre d'aviation civile.
C'est vrai qu'on retrouve des fois autour de Mont-de-Marsan, dans la forêt, on trouve des anciens tracés de pistes et notamment des espèces de plaques métalliques qui servaient d'accroche. Hein, parce que, évidemment, je n'apprends personne qu'il y a beaucoup de sable. Et donc, du coup, les Allemands ont laissé des traces qu'on peut retrouver justement autour de Mont-de-Marsan. Je les ai déjà pratiquées.
Ouais.
Et oui, c'est vrai, oui. Et ça veut dire qu'il y avait des gens qu'on envoyait, parce qu'on parlait du mur de l'Atlantique, donc en fait, tu avais des navettes en train, on embarquait les gars, ils allaient bosser.
Ou un transport camion.
Ouais. Et ils revenaient.
Mais parce qu'il y avait 40 camps, ils étaient dispatchés aussi dans les 40 camps dans les Landes.
Voilà, c'est ça.
Quand les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre, ils demandaient au Stalag à Bayonne, et voilà, ils étaient envoyés dans dans les différents camps. Alors oui, c'est vrai que celui de Buglos était un des plus grands camps, parce qu'il y avait des camps où il y avait 2 ou 3 baraques, par exemple.
Ah oui, voilà, oui.
Mais qui pouvaient être plutôt le long de la ligne de démarcation.
Mmh.
Voilà, et pour celui de Buglos, en effet, hein, il pouvait y avoir jusqu'à 1300, 1400 prisonniers, mais pas tout le temps.
Oui, oui.
On a des fiches d'appel où on a 500 prisonniers un jour, il y en a 700 la semaine d'après,
oui.
ça fluctuait.
Oui, ça
parce qu'en plus,
beaucoup,
les Allemands avaient peur beaucoup des prisonniers.
Oui.
C'était dans la forêt, leur campement était entouré de barbelés, les prisonniers coloniaux n'étaient pas enfermés dans des...
Oui.
Hein, on se demande pas pourquoi, hein, parce qu'il y a 80 ans, des Noirs, il n'y en avait pas... partout dans le département.
Non, je ne pense pas qu'il y en avait énormément, effectivement.
Voilà. Et la plupart du temps, quand ils s'échappaient, parce qu'on a eu des témoignages, quand ils s'échappaient dans les familles, les familles leur donnaient à manger, mais il fallait qu'ils partent rapidement, parce que les familles étaient condamnées. Hein.
Mais surtout qu'en plus, s'ils étaient d'origine étrangère et donc pas mal noirs,
ça sautait aux yeux
de suite. On ne va pas dire non, ce n'est pas mon cousin qui vient de... Non, ça n'était pas possible. Forcément, ils allaient être repérés, c'était inéluctable, ça c'est sûr.
Oui.
Bon, on va faire déjà une deuxième pause. On va écouter le Flash Info local cette fois-ci et un petit peu de musique, bien entendu. Et on se retrouve après ça. Et nous voilà de retour avec Régine. Alors, donc, on discutait pas mal hors antenne. C'est vrai que, alors, on a pas mal parlé des prisonniers, hein, des coloniaux, mais aussi la guerre un jour elle s'est finie. Et ce camp, il a servi aussi à entreposer des prisonniers allemands, du coup.
C'est le 24 août 1944, les prisonniers coloniaux, tous les Allemands s'étaient carapatés. Hein. Mmh. Il fallait... Et ce sont les voisins qui ont ouvert le camp pour... Ils étaient libres, il n'y avait plus personne pour les garder. Mmh. Et en fait, ces prisonniers coloniaux ne pouvaient pas divaguer comme ça dans les rues. Ils ont été enfermés dans les arènes de Dax. Ah et oui. Dans les arènes de Saint-Vincent-de-Paul.
D'accord.
Avant de pouvoir repartir chez eux.
Ah oui, donc décidément, ils étaient condamnés à être enfermés, ces gens-là.
Voilà. Mais oui, parce qu'il y avait une... Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait une propagande qui était faite par les Allemands dans les cinémas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui se rappellent encore comment c'était. Mais c'était une propagande atroce sur... Sur ce que pouvaient faire.
Oui, on le faisait passer pour des sauvages,
voilà,
etc. Oui,
des sauvages
sûr,
qui mangeaient les enfants, oui, enfin bon, des choses comme ça.
La propagande, oui, c'est ça. Oui, donc, ça
donc
avait, ça
dans la
traces,
tête
ça.
Des gens, bien sûr, ce qui commence à se passer, ben.
Les pauvres gens.
Voilà.
Mais ouais, décidément, difficile de quitter ce statut.
Mais il y en a qui ont réussi à s'échapper.
Voilà, oui, ça c'est bien. Ouais, voilà, justement, alors. On a parlé un petit peu hors antenne, c'est intéressant, c'est parce que aussi dans tout ce que vous avez fait là,
d'ailleurs,
avec ce camp, vous avez des rencontres.
Oui, on organisera une cérémonie le 19 septembre 2026, elle devait se passer le 24 août, le jour de la libération, mais bon, nous dans le massif forestier, on ne peut pas accéder s'il y a des vigilances orange ou rouge, donc voilà, il n'est pas question que l'on fasse quoi que ce soit,
Le
19 septembre, nous espérons avoir des moments un peu plus calmes de météo.
Oui. Bien sûr.
Alors, voilà, donc on va faire une cérémonie en hommage à Bourama Diémé, qui était un Sénégalais qui s'est échappé du camp, d'abord avec l'aide de jeunes Vincentiens qu'ils ont aidés. Ces jeunes Vincentiens travaillaient à la maçonnerie parce qu'ils étaient employés par la mairie, mais c'était les Allemands qui avaient réquisitionné ces jeunes, ces jeunes, parce que les autres étaient partis à la guerre, bien sûr, ou prisonniers. Et donc, ce Bourama continué à faire la guerre, lui. Hein. Il a été fait commandeur de la Légion d'honneur en 1991. Et il a été choisi par l'école des sous-officiers Saint-Maxin comme parrain de guerre.
D'accord.
Parrain d'une promotion,
ouais,
pardon.
D'accord,
ouais, okay. Je vais mélanger tout. Et donc, il y aura un hommage qui sera fait à Bourama Diémé, qui s'est échappé.
Bon, c'est au moins, il a réussi à s'échapper. Bah, de toute façon, je pense qu'il ne pouvait pas s'échapper sans la complicité de gens locaux, parce qu'une fois sorti du camp, il faut bien que quelqu'un le dirige.
Mais la ligne de démarcation était assez loin, hein. Elle était à Jetmo, et donc après, il y avait d'autres personnes qui s'occupaient, parce que, en fait, les personnes, les passeurs, si vous voulez, ne se connaissaient pas. Ils connaissaient les locaux, par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, du camp de prisonniers à Tétieux, où le passage était la Dour.
Oui.
Et ensuite, c'était d'autres personnes qui reprenaient...
D'accord, il valait mieux pas qu'ils se connaissent.
Hein. Voilà, ils ne se connaissaient pas.
Et oui, pour des raisons...
Donc la plupart du temps, même les familles ne savent pas qu'ils ont eu des grands-pères ou des pères...
qui ont fait des choses honorables. Hein. Oui, c'est ça, heureusement, des justes. Un peu comme on dit, des justes. Et oui, alors donc il y a quand même des rencontres émouvantes. Vous parliez d'un homme allemand qui a connu cette horreur. Et donc, grâce à tout ça, on n'est pas juste pour raconter la guerre, c'était ça. Nous, on était gentils, les nazis, c'était les méchants. Mais c'est aussi ce devoir de mémoire, c'est aussi une cicatrisation, un devoir de réconciliation et de paix entre les peuples.
Il y a le traité de l'Élysée. Donc peut-être que ça a servi à quelque chose. Donc nous, on fait des rencontres. Enfin, quand on travaille, nous, notre travail, c'est la transmission mémorielle.
Voilà.
Et donc on accueille des écoles, mais on accueille aussi la Maison de l'Europe, avec des jeunes qui veulent le savoir, qui viennent de toute l'Europe et qui veulent connaître cette histoire. Donc c'est important de pouvoir transmettre aussi l'histoire des Allemands,
oui,
qui ont été aussi prisonniers à Buglos.
Ah oui, voilà.
De 1945, il y a eu cette coupure en 1944, en août 44, et ensuite en 1945, des prisonniers allemands ont été, puisque la guerre a continué. Les Allemands partaient, les Américains et les Anglais et les Français ont continué cette guerre et les Allemands étaient raflés. Friedrich Schumann, par exemple, qui est notre exemple sur... Pour la période allemande, avait 18 ans et il faisait 35 kilos et mesurait 1m80, par exemple. Nous l'avons connu parce qu'un journaliste allemand était venu sur le camp, qui était rédacteur en chef du Berliner Zeitung. Et donc cet homme voulait tout savoir ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait. Parce qu'on nous a demandé pourquoi vous faites ça.
Oui, bien sûr. Ouais.
En fait... moi, je suis de Saint-Vincent-de-Paul et il était important pour moi que l'on puisse rendre son histoire au village.
Tout à fait.
Les histoires ne sont pas que des histoires. Ça, c'est l'histoire.
C'est l'histoire
du village.
Avec un grand H.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
Et donc, c'était important et de savoir, de pouvoir transmettre aussi les deux périodes.
Oui, oui, c'est vrai, parce que ça démontre aussi que la cruauté, elle n'a pas de camp, elle est toujours des deux côtés, parce que les prisonniers allemands ont été, des fois, très très mal traités aussi. Et
ah oui, voilà. On peut dire qu'ils ont... Mais bon, il y a 80 ans, donc il faut aussi se dire que les Français ont fait aux Allemands ce que les Allemands avaient fait parfois pire.
Et oui, oui,
hein, voilà,
sais,
donc
oui.
C'est la guerre,
c'est ça.
Malheureusement.
Ben oui, il y a pas de... On rajoute toujours du mal au mal.
Voilà.
C'est moche, ça, hein.
Oui.
C'est vrai, en fait, quand on y pense.
Oui, c'est vrai, pourquoi se faire du bien
Ben oui, ce serait dommage. Hein. Voilà. Bon, mais voilà, mais c'est bien, parce que vous parlez de transmission, donc vous avez des scolaires qui viennent vous voir aussi. Donc
oui, il y a eu un travail qui a été fait avec l'Éducation nationale, qu'on doit revoir prochainement, parce que bon, maintenant, bien sûr, il faut aussi... c'est un site où il n'y a rien, on a juste des toilettes sèches pour les accueillir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de...
Oui.
Voilà, donc il y a plein de choses que l'on doit... que l'on doit revoir également.
Oui, oui.
Mais la transmission nous paraît importante,
parce que
l'histoire, qu'elle soit l'histoire avec un grand H, comme vous le disiez, ou l'histoire personnelle, quand on oublie des choses, eh bien, ça revient en boomerang.
Oui, c'est vrai. Alors, d'autant plus que c'est d'autant plus important que les jeunes aillent sur des sites comme ça, parce que c'est une chose d'être assis en cours d'histoire et géo, d'entendre parler, de voir des diapositives ou des films, etc. C'est une autre chose de voir des vrais lieux. On peut dire, ah mince, là, il y a des gens qui ont souffert, qui sont morts. Et ça, l'impact est beaucoup plus fort. Là.
Oui, ça, c'est très important, comme vous le dites, puisque c'est aussi le discours que nous tiennent les professeurs des écoles
et
les directeurs d'école, nous disant que c'est important pour les enfants de voir que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on raconte comme ça dans les livres d'histoire.
Oui, c'est vrai.
C'est important de voir comment c'est.
Oui.
Nous avons une baraque mémorielle, une mémorielle authentique que nous sommes allés chercher à Rue Roquefort, qu'une dame nous a donnée, puisque les Allemands, quand ils arrivaient, ils ne vous demandaient pas si vous étiez d'accord.
Oui,
on prend le terrain, on fait ça, terminé.
Bien sûr.
Voilà. Donc ils arrivaient en conquérant. Voilà, donc cette dame un jour nous a dit, mais moi je sais le travail que vous faites, je vous donne les baraques. Voilà, donc ensuite ça a été un long travail bien sûr, hein,
oui.
Mais toujours avec un projet, puisque là le projet c'était de travailler avec le lycée Bois Runtaziev, c'était aussi travailler avec le professeur d'histoire. Voilà, chaque fois qu'il y a un projet, c'est aussi travailler avec d'autres personnes.
Oui, bien sûr. Oui.
Un maillage important.
C'est vrai. Oui, alors pour les gens qui sont jamais allés sur des sites tels quels, c'est difficile de ne pas être, saisi d'émotion. À un moment donné, c'est difficile de garder les yeux secs, en fait, dans les endroits comme ça, quand on sait ce qui s'est passé. Voilà, il y en a qui disent ce qu'ils veulent, mais enfin, il y a quelque chose qu'on ressent qu'au-delà du disciple. C'est pour ça que c'est important de visiter, d'y aller. C'est pas juste du tourisme. Tiens, oh, c'est sympa, voilà, c'est un peu plus que ça, quand même, que du tourisme.
Non, mais en effet, nous, quand on a des visiteurs, c'est vrai que c'est toujours des moments importants où l'on doit écouter. Et souvent des témoignages rudes.
Et oui, et c'est difficile, toujours.
C'est difficile parce que nous, on a une vision 80 ans après. Les personnes qui l'ont vécu, sont...
Oui.
Je ne trouve pas les mots pour,
ouais. Oui, mais je sais,
pour vous expliquer ce qu'il en est. Nous, on a des personnes qui viennent avec, avec des couvertures qui viennent d'Auschwitz, des timbales que leur père avait. Voilà, donc tout ça, c'est... Ouais. En effet, ce sont des moments... ça peut durer longtemps. Une visite est de 2 heures, mais après, quand on s'installe dans la baraque, puisque dans la baraque, on a aussi une maquette qui a été faite par un bénévole, une carte avec les 40 camps, des chalis qui ont été faits par le lycée Bois, une maquette aussi qui représente la baraque, enfin, des objets qui ont été trouvés sur le site.
Oui,
donc,
si
vous voulez, tout ça, ça réveille aussi plein de choses.
Oui, c'est vrai. Mais les lieux, les endroits, c'est des choses qui touchent souvent. Moi, j'en ai discuté avec le conservateur de Marquez, par exemple, quand on voit les anciens objets. Il y a quelque chose qui se passe dès qu'on voit vieil objet qui date de 100 ans, 200 ans. On s'imagine à la vie qui restait attachée quelque part, dans quelques particules cachées. Il y a toujours une émotion par rapport à ces traces invisibles, mais perceptibles.
Bien sûr.
Voilà.
Mais les enfants ont toujours... avec les visiteurs, ça se passe différemment, mais... Avec les enfants, ils ont toujours des questions très pertinentes.
Ah, ils n'ont pas de filtre. ils n'ont pas de filtre.
ils connaissent l'histoire. Quand ils viennent, en fait, ils ont déjà une connaissance importante de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Je crois que c'est une grosse tranche d'éducation nationale en histoire, l'air de rien. Je crois que je le sais de source sûre. Bon, on va faire une dernière petite pause, écouter un petit peu de musique. On atteindra la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà la dernière partie de notre émission. Alors, une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il existe un livre des Barbelés à Buglose. Alors, ce livre, bien sûr, il a un double intérêt. Premier intérêt, c'est son contenu lui-même, le fait qu'il existe, le témoignage qu'il représente. Et aussi, c'est une manière aussi à votre association de recueillir des fonds, parce que je crois que les auteurs, ils ont dénoncé leur droit d'auteur à votre faveur.
En effet, oui, c'est un livre qui se vend... assez bien lors des visites, et en effet c'est pour nous une manne, en effet, pour pour notre trésorerie.
Mais oui, parce que vous devez en avoir besoin, parce que vous avez accompli pas mal de choses quand même.
Oui, on en a besoin, bon, même si les collectivités locales nous aident, mais l'association participe assez généreusement dans tout ce qu'elle fait.
Oui, d'accord.
Puisqu'on gravillonne des baraques, c'est-à-dire que les baraques, bien sûr, il y a les fondations, mais à l'intérieur, c'est du sable, l'herbe qui pousse. Voilà, donc pour éviter d'avoir à nettoyer les baraques qui sont enherbées, eh bien, on nettoie la baraque, on met un film plastique et du gravier dessous, ça nous permet de faire autre chose.
Bien sûr. Oui.
Voilà, et donc ça a un coût. Et le gravier, aujourd'hui, c'est très cher.
Eh bien oui, c'est ça. Donc, voilà.
Les matières, et puis bon, on ne le fait plus, ou très rarement, parce que c'est en effet très onéreux.
Donc vous avez besoin, bon, évidemment, s'il y a des dons, par l'intermédiaire de ce soir, bon, vous avez déjà subvention.
Les adhérents, oui, on a des adhérents, la commune qui nous aide beaucoup, puisqu'ils viennent passer... Le girobroyeur deux fois par an, au mois de mai, au mois de septembre, quand c'est possible, pour les journées européennes du patrimoine, elles vont être les 19 et 20 septembre, les journées du patrimoine.
Oui, là, c'est l'occasion de recevoir du monde, là.
Oui, mais là, c'est là aussi que ça part. Même si les visites sont gratuites, les gens, les visiteurs viennent, sont souvent généreux et nous aident quand même beaucoup.
Mais tant mieux, parce que vous avez accompli beaucoup de choses. On va mettre à la fin cette émission. Mais voilà, c'est important ce que vous avez fait.
Et puis nous avons aussi le journal du démineur qui avait été envoyé par Clé et la famille de Friedrich Hemann, cet Allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a mené son 150e copain au cimetière, puisqu'il y a eu un cimetière allemand sur ce camp. Qui a été dont les corps ont été relevés en 1962 et emmenés dans une nécropole en Charente-Maritime.
Très bien. Bon, je mettrai bien entendu un lien avec le podcast. Comme ça, les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter votre site pourront vous retrouver là-bas. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet endroit et de tout ce que vous y avez accompli. Merci beaucoup.
Merci, Adi Schatz.
Merci, Adi Schatz.